Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France.
Bonsoir à tous, chers amis. Bienvenue dans les vraies voix qui font bouger la France. À partir de 19h30, place à Stéphane Saumier sur Sud Radio et sur Bismart. Parlons vrai avec les entrepreneurs. Il sera en compagnie de ses deux invités, mais avant sa place à Yves de Risbourg et à Christine Bié. Les voix de l'emploi dans quelques instants. Toutes vos questions au 0826 300 300. Ils sont là, frais et dispo et dans les starting blocks. Toutes vos questions sur votre carrière, sur votre embauche future. Pourquoi pas? On vous le souhaite aussi. On vous présentera aussi, bien, les bons plans, justement, les conseils d'Yves de Risbourg et de Christine Bié. Notamment le bon poste du jour, celui où il y a beaucoup de travail, malheureusement, en ce moment, aide-soignante. Effectivement, c'est un exemple parmi tant d'autres. A tout de suite sur Sud Radio.
En partenariat avec Lidl.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Bié, Yves de Risbourg, les voix de l'emploi.
19h passé de 6 minutes et 20 secondes, quelle précision, vous êtes sur Sud Radio et ce sont les voix de l'emploi que vous allez retrouver avec bien sûr Christine Bié. Bonsoir Christine.
Bonsoir Yves.
Et puis bien entendu les auditeurs de Sud Radio 0826 300 300, vous les retrouverez tout à l'heure dans On vous rappellera, dans La Bonne Voix, on parlera bien sûr du bon poste et puis de tout à l'heure également on découvrira les annonces qui sont dans la boîte de job et parmi lesquelles quelques annonces signées Lidl. Mais tout de suite, vous allez nous faire découvrir, Christine, l'invité qui va être avec nous tout au long de cette émission ce soir.
Oui, tout à fait. Alors, on a le plaisir d'être en compagnie de Jacques Guillot, qui est le directeur des ressources humaines de Ramsay Général de Santé. Bonsoir, Jacques.
Bonsoir.
Bonsoir Jacques Guillot. Alors vous savez, dès qu'on démarre, c'est comme quand on vient dans une entreprise, on passe un entretien. Mais celui-ci, cette fois-ci, c'est Ramsay Général de Santé qu'il va falloir nous présenter.
Oui, complètement. Donc on va faire un petit parcours de santé, si je peux me permettre cette petite blagounette. Ramsay, tout le monde connaît, hein, quand même, fondé en 1987. Donc moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est combien de collaborateurs vous avez aujourd'hui? Où est-ce que vous êtes implanté, pardon? Quel type de pathologie vous traitez? Et combien d'hôpitaux et de cliniques privées, hein, parce que vous êtes le leader aujourd'hui. Donc racontez-nous tout ça, Jacques.
Avec plaisir. Mais Ramsay Santé, c'est Ramsay Santé.
Oui.
À 150 établissements en France. 85 de ces établissements sont des établissements dits MCO, c'est-à-dire de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, c'est-à-dire des hôpitaux, des cliniques où on opère. Une trentaine de soins de suite, des SSR, qui ont vocation à rééduquer, réhabiliter après une intervention chirurgicale ou à la préparer. Et puis, une trentaine d'établissements de santé mentale qui sont des établissements de psychiatrie. Alors, ces établissements sont principalement, alors pour la partie MCO, c'est-à-dire chirurgicale, dans les grandes métropoles, dans le nord de la France, dans l'Île-de-France, dans l'ouest de la France, dans la région du Havre, de Caen, dans la région Bourgogne, Dijon, Mâcon, Chalon et la région de Lyon. Ensuite, on a la région de Marseille, PACA, et la région toulousaine, et sans oublier le Pays Basque et la côte ouest, la côte atlantique, avec un établissement à La Rochelle.
Voilà, vous êtes quasiment partout, les éditeurs de Sud Radio sont en plein dans les zones d'écoute, il n'y a pas de souci. La question qu'on peut se poser aussi, on parle effectivement, et pour cause, des établissements de santé depuis de longs mois, avec l'apparition de la Covid. Les gens ne font pas toujours la différence entre hôpital, bon, public, c'est les CHU, etc., les cliniques privées, ça on sait que c'est privé, mais vous parlez aussi d'hôpitaux, donc il y a des hôpitaux privés, ce ne sont pas des cliniques.
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le terme hôpital n'est pas limité ou exclusif de l'hôpital public. Alors, on a coutume de faire la différence dans notre groupe, entre hôpital et clinique, je dirais par la taille de l'établissement. Un hôpital, c'est un établissement, donc une clinique, si vous voulez, d'une certaine taille, voire je dirais une taille assez importante, qui peut employer jusqu'à 1000 salariés.
Et la différence pour le patient?
Il n'y a pas de différence pour le patient parce qu'il va venir se faire soigner, se faire opérer, aussi bien dans une clinique que dans un hôpital.
Avec les mêmes protections sociales que dans un hôpital public?
Avec exactement les mêmes protections sociales, exactement, puisque les prestations hospitalières sont couvertes par l'assurance maladie.
Ouais, il fallait le préciser parce que c'est vrai qu'on se pose parfois un peu la question.
Oui, j'avais juste une petite question, c'est combien de patients alors accueillis chaque année à peu près?
Alors, 2 millions.
Ah oui?
2 millions de patients. 800 000 patients aux urgences, et puis un chiffre qui est sympa, 30 000 bébés ont vu le jour l'année dernière dans nos maternités.
Ah, super.
Jacques Guillot, vous allez rester avec nous pendant toute cette émission, vous allez pouvoir rebondir sur les questions que nous posent les auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300, ce qui va d'ailleurs être le cas dans quelques instants.
Sud Radio, les voix de l'emploi, on vous rappellera.
On vous rappellera aussi cette fameuse petite formule qu'on trouve parfois lorsqu'on a envoyé un CV par retour. C'est pas toujours agréable, si on ne se fait pas rappeler, évidemment. Là, figurez-vous que c'est Laurent qui nous pose une question et qui se pose lui une question d'ailleurs.
Bonjour, c'est Laurent de Bagnolet. J'ai répondu à une annonce en tant que programmeur informatique et on vient de me convoquer pour passer un entretien psychotechnique. Je voulais savoir comment m'y préparer. À bientôt, au revoir.
Un entretien psychotechnique. Alors, on avait fait les entretiens, les entretiens en visio,
oui, simulation.
Les entretiens, simulation, etc. Mais alors, le psychotechnique, qu'est-ce que ça?
Finalement, c'est un mélange entre la psycho et puis le côté technique. Alors, ça n'a rien à voir avec les fameux tests de QI, les tests de personnalité, etc. Effectivement, il y a un grand catalogue. Concrètement, on va dire, vous voyez, c'est les vacances scolaires, on est un peu dans le cahier passeport vacances. Voilà. Et pourquoi on le fait venir? Parce que c'est mieux parce qu'on va pouvoir observer, en fait. Ce qui est important à savoir, c'est que ces tests-là sont surtout des tests où on va regarder le comportement de la personne. C'est pour ça qu'il ne faut pas paniquer avant, enfin on essaye en tout cas, parce qu'on ne va pas être noté absolument, et ce n'est pas parce qu'on a une note plus ou moins bonne qu'on ne va pas être retenu. D'abord, c'est un complément aussi, ces tests-là. Il y a un entretien, etc. Mais c'est vraiment le comportement, c'est-à-dire qu'avant, on les passait plus sur du papier, et on n'avait pas intérêt à caqueter son papier quand on fait des calculs, à regarder sur le voisin. Bon, là, avec la distance sociale, c'est un peu plus compliqué. Donc, il faut... moi, le conseil que je donnerais, c'est il faut quand même un petit peu s'entraîner avant, parce que c'est un peu particulier. Il y a beaucoup de tests sur Internet. Vous savez, c'est les suites logiques, les dominos, la réflexion spatiale.
Ah oui, il y a trois animaux. Il y a une tortue, un escargot, un
voilà.
lapin. Quel est l'intrus?
Exactement. Où on vous dit pou, genou, hibou, rocher, quel est l'intrus? Ou dans le mot Chine, par exemple, qu'est-ce que le chien apprécie le plus? Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour réfléchir. Donc voilà. Donc l'idée, c'est de s'entraîner un peu avant, de... arriver à peu près à gérer le temps, ça c'est important, de pas se dire que si on n'arrive pas à répondre à une question, c'est grave. Et puis, c'est un peu comme à l'école, si on bloque sur une question, il faut passer à la suivante. Parce qu'il y a même souvent des questions où il y a marqué « je sais pas » et la vraie réponse est « je ne sais pas » finalement. Alors, dans l'informatique, c'est vrai que de temps en temps, on met aussi des questions un peu plus techniques, c'est-à-dire peut-être résoudre un problème en codant, par exemple. Mais on est, encore une fois, dans ce que vous énumérez, les suites, voilà. Donc, c'est vraiment ça, et on va regarder le comportement pour voir si la personne s'énerve très vite, pour voir si elle en peut plus, si elle gère pas son temps, etc. Et d'ailleurs, ce sont des tests, je crois, qui sont beaucoup utilisés dans les professions paramédicales, il me semble, non, Jacques?
Moins. Nos processus de recrutement sont essentiellement maintenant basés sur des entretiens.
D'accord.
Où justement, on va les vérifier à l'oral, par des questions, par des échanges, ce type d'interrogation.
D'accord, donc c'est vrai que là, dans l'informatique, c'est très très pratiqué, mais encore une fois, c'est un mélange des deux, et il faut vraiment, j'allais dire, plus se concentrer, en fait, sur les exercices. On arrive à les faire, c'est bien, on n'arrive pas, ce n'est pas grave, c'est-à-dire qu'on ne sort pas avec sa copie en disant « Ah, monsieur, ça ne va pas, vous vivez sur vos bases, vous ne passerez pas en classe supérieure. »
Donc il
ne
faut pas qu'il panique en deux mots, parce
non,
que Laurent,
il
se pose des questions, il nous écoute.
Et puis vraiment, encore une fois, il faut s'entraîner. Et puis, le dernier conseil, c'est très souvent, juste avant de passer un petit test, on vous explique comment il faut faire, on vous donne un exemple. Donc ça, c'est super important, parce qu'on voit un peu la façon dont il faut réfléchir, pas forcément se précipiter, comme vous dites, sur l'intrus, sur une suite de dominos, ou des figures qui tout d'un coup se retournent et on se dit qu'est-ce qu'on rajoute après, ou voilà.
Donc le plus simple, c'est peut-être d'aller sur Internet, si vous faites entretien psychotechnique, il doit y avoir full de pages avec des exemples.
Alors il y a énormément de tests qu'on peut faire avec un chronomètre, donc ça nous met en condition. Et pour répondre à ma propre question, eh bien, dans le mot Chine, qu'est-ce que le chien adore? Vous changez les lettres et vous avez la niche.
Absolument. Voilà, et comme quoi,
voilà,
il fallait penser. Parfait. Eh bien, écoutez, sur ce, je pense que Laurent, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est s'entraîner, et puis peut-être nous rappeler au 0826 300 pour lui dire comment ça s'est passé. On aime bien quand vous nous rappelez, et ça arrive très fréquemment. Il est temps peut-être maintenant de passer au bon poste qui a été tout à l'heure dévoilé par Jean-Marie Bordry.
Sud Radio, les voix de l'emploi, le bon poste.
Alors, un poste sur mesure pour vous, Jacques Guillot, mais déjà, on va rentrer dans le vif du sujet avec Christine, parce que aide-soignante, c'est très très large.
Alors,
il y a tellement de métiers, tellement de professions dans le monde médical que l'aide-soignante, c'est un poste bien défini.
Oui, alors je vais aller assez vite là-dessus. Pour une fois, je vais me taire parce qu'on a effectivement le plaisir. On a un spécialiste, on a Jacques Guillot qui est là. Mais effectivement, aide-soignant, c'est quand même une profession qui est à la fois très connue et à la fois méconnue. Souvent, c'est assez réducteur. Hein. On explique que ce sont des gens qui vont faire aider un peu aux gestes du quotidien, alors dans les cliniques, dans les hôpitaux, dans les EHPAD, etc. Mais moi, je voulais insister et faire, alors c'est le cas de le dire, une petite piqûre de rappel, c'est qu'il y a aide, il y a soignant, et ce qui est très important, c'est pour ça qu'il faut absolument le mettre en lumière, c'est que bien évidemment, ils aident au confort des malades, sont aussi des confidents, très souvent, on organise la chambre, on aide effectivement à marcher si on a un peu plus de mal, et c'est aussi un lien avec l'entourage. Parce que quand l'entourage est là et très inquiet, c'est quelqu'un qui rassure. C'est quelqu'un qui collabore évidemment avec une équipe médicale, hein, c'est une profession paramédicale, mais qui collabore notamment avec des infirmiers, donc qui va suivre les préconisations de soins, qui va surveiller l'état de santé. Donc aujourd'hui, le diplôme d'État d'aide-soignant se prépare, alors dorénavant depuis octobre 2020, en 12 mois de formation, alors qu'avant c'était 10. La formation est ouverte aux personnes de 17 ans au moins, sans condition de diplôme. Et il n'y a plus de concours maintenant, il y a un examen sur dossier avec entretien oral. Et surtout, ce qui est très important, et là je vais laisser la parole à Jacques, c'est que depuis la fin de l'année dernière, il y a une passerelle aussi pour permettre des formations pour accéder au job de auxiliaire de puériculture, par exemple, ou aide médico-psychologique, etc. Hein, c'est ça, Jacques ?
Jacques Guillot, il y a combien d'aides-soignants chez vous sur l'ensemble des salariés du groupe Ramsay Santé ?
Il y en a à peu près 10 000.
Et ça, comme l'a dit Christine, ce sont des métiers, je suppose, qui sont de plus en plus valorisés.
Alors exactement, parce que pour compléter ce que vous avez dit, l'aide-soignant, c'est quelqu'un aussi qui surveille le patient, hein, qui va contrôler que tout se passe bien. Et donc c'est quelqu'un qui travaille en équipe avec le médecin, les infirmières, les infirmiers. Donc c'est l'équipe des soignants, et l'aide-soignant ou l'aide-soignante va avoir comme tâche particulière donc le suivi, le contrôle du patient, que tout va bien, et également de l'assister dans sa vie quotidienne, donc son alimentation, son hygiène, et également, c'est très important ce que vous avez dit, je dirais sur son accompagnement dans l'établissement, parce que c'est jamais un moment toujours facile d'être dans un hôpital, et donc il y a le patient, il y a sa famille. Et ce que je peux dire en complément aussi, c'est que ces métiers d'aide-soignant, on les trouve bien sûr dans les services classiques auxquels on pense, mais aussi on les trouve dans les unités très techniques, comme les blocs opératoires et les salles de réveil, où les aides-soignants ont des missions très particulières, très, très précises et très techniques aussi à mener.
Alors ce sont des métiers qui ont du sens, qui ont une extrême responsabilité, etc. Mais c'est vrai que lorsqu'on parle salaire...
Oui, alors je vais mettre une grosse lumière là-dessus. Bon, même si, encore une fois, il y a eu une revalorisation en fin d'année dernière, mais on est sur des rémunérations entre 1600 et 2100 euros. Après, ça dépend du grade, ça dépend de l'ancienneté, ça dépend de l'endroit où on travaille, etc. Mais c'est vrai qu'il y a un bien-être médical, bien évidemment, mais psychologique, moi je trouve, qui est extrêmement important et qui mérite un salaire... plus conséquent, clairement.
Jacques Guillot, est-ce que depuis les événements qu'on connaît maintenant depuis un an et demi, il y a eu des vocations ? Est-ce qu'il est plus facile aujourd'hui de recruter des aides-soignants, des aides-soignantes, que ce ne l'était avant qu'on ne mette le projecteur sur eux ?
Non, je ne pense pas qu'il y ait plus de vocations. Les unités de formation ont le nombre d'étudiantes, d'étudiants. La crise, on va dire, du printemps dernier et celle qu'on connaît actuellement est très dure pour les personnels soignants. Les chiffres que je peux voir, c'est une situation relativement stable. Alors, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les besoins vont en augmentant, parce que la situation sanitaire le démontre. Donc, on a besoin de plus, que ça soit dans l'hôpital public, dans les hôpitaux privés et également dans les EHPAD. Hein, faut pas les oublier, parce que ce sont des établissements qui embauchent beaucoup d'aides-soignants. Donc, je dirais situation stable.
Oui, parce que moi, j'ai regardé les chiffres, hein, et apparemment, les postes à pourvoir d'ici 2022, c'est 220 000 postes d'aides-soignants.
Donc, il y a effectivement besoins qui sont absolument énormes.
Ouais.
Vous savez, c'est mécanique, hein, parce que vous avez une augmentation de la vie.
De la durée de vie.
Et un chiffre qui est important, c'est que les patients la moitié des opérations chirurgicales sont faites pour les patients qui ont au moins 65 ans.
Ah oui.
Donc, plus vous augmentez l'âge, et forcément, mécaniquement, vous avez un besoin qui se ressent plus important dans le périmètre chirurgical.
Propose de retourner du côté du 0826-300-300, alors qu'il est bientôt 19h20, sur Sud Radio, pour y découvrir un auditeur dans La Bonne Voie.
Sud Radio, les voix de l'emploi, La Bonne Voie.
C'est Jean-Marc qui nous a laissé un message et vous l'allez voir. C'est vraiment fait pour vous, ça, encore, Monsieur Jacques Guyot.
Bonjour. J'ai géré deux hôtels pendant plus de 15 ans et je les ai vendus l'an dernier. Il se trouve que je suis passionné par l'univers de la santé et j'aimerais beaucoup diriger une clinique. Est-ce que vous pensez que c'est envisageable? Merci beaucoup.
Eh bien, écoutez, vous avez bien fait d'appeler Jean-Marc parce que Jacques Guyot va pouvoir nous répondre. Alors, recruter un directeur de clinique, c'est vrai que c'est un manager, c'est pas vraiment un médecin, c'est quelqu'un qui sait gérer des stocks de vaccins, entre autres, mais aussi
des ressources humaines.
Des ressources humaines, etc. Donc, si on a travaillé dans l'hôtellerie pendant 15 ans, ce qui était le cas de Jean-Marc, est-ce qu'il peut tout à fait venir vous voir, alors qu'il doit, je pense, il nous a pas donné son âge, mais je pense qu'il a 45-50 ans, est-ce qu'il peut venir vous voir pour être un directeur de clinique ou d'hôpital?
Et bien sûr. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, pour être directeur d'une clinique, d'un hôpital, il n'est pas nécessaire d'être médecin. Il faut au contraire être un vrai manager. Vrai manager, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une expérience et une expertise en gestion. Ce sont des mondes qui sont très complexes à gérer et une expérience du management. Et cette expérience, cette connaissance du management, elle est extrêmement sensible parce que bien sûr, il y a les équipes de l'établissement, mais il y a également la communauté des médecins qui, dans notre monde à nous, exercent dans le cadre d'un contrat d'exercice libéral, ça veut dire qu'ils ne sont pas salariés de l'établissement, mais ces médecins, eux, ils vont encadrer d'un point de vue médical les équipes de l'établissement.
Qui, elles, sont salariées.
Qui sont salariées. Et les médecins, eux, sont protégés, heureusement, par une sphère déontologique, donc sur laquelle, dans laquelle le directeur de l'établissement ne va pas interférer. Et donc, il faut trouver la bonne posture pour animer, fédérer autour d'un projet médical d'établissement, une communauté médicale, des communautés de soignants, des communautés aussi de fonctions support. Et dans l'hôtellerie, nous, ce qu'on voit, ce qu'on constate, c'est que, un, bah, l'expérience de la gestion, elle y est, l'expérience du management y est, et nous avons eu des patrons d'hôtels qui nous ont rejoints dans les années précédentes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vient chez nous d'un autre métier, d'un autre secteur, nous avons un parcours de formation, un parcours d'intégration, pour apprendre tout ce qui manque à cette personne, à ce manager expérimenté, pour diriger un établissement.
Quand vous dites les 200 établissements que vous avez...
150.
150 établissements que vous avez. D'où viennent justement les directeurs de ces établissements?
Alors, dans les secteurs de gérés d'origine, il y a des gens qui viennent de la restauration collective, donc vous voyez, assez proche de l'hôtellerie,
vraiment,
de la téléphonie, des gens qui ont dirigé des entreprises de téléphonie. Nous avons d'anciens militaires, qui ont l'expérience du commandement et qui ont trouvé dans la santé, lorsque la cinquantaine, ils allaient fêter leurs 50 ans, et donc faisaient des choix entre je continue dans l'armée ou je vais vers un autre parcours, cherchaient un sens dans leur action. Et donc, dans ces militaires qui nous ont rejoints, ont ces qualités d'engagement, de management, et donc nous, on leur a appris le monde médical.
Bon, Jean-Marc, je crois qu'il n'y a pas de souci.
Hein. Il peut être
vous arrivez, d'orchestre. Jean-Marc, avec un CV de folie. on en parlait tout à l'heure dans la boîte à job. Et je crois que vous pouvez postuler du côté de chez Ramsay Santé. D'ailleurs, la boîte à job, il est même temps de l'ouvrir maintenant.
Oui.
Sud Radio, les voix de l'emploi, la boîte à job.
Alors, dans la boîte à job, on va bien sûr démarrer avec les annonces de notre partenaire Lidl qui n'arrête pas. On en est à combien aujourd'hui?
1401.
1401 offres d'emploi sur le site Lidl.fr. Donc, il y a du boulot chez Lidl.
Oui, donc aujourd'hui, Lidl cherche un responsable des ventes secteur en grande région Centre-Est. Ça sera déterminé pendant le recrutement, donc responsabilité de l'un des secteurs de supermarché, avec mettre en œuvre le concept commercial de l'enseigne, accompagner les responsables de supermarché, animer le secteur, assurer l'interface entre les supermarchés, garantir la bonne application de la politique commerciale, etc. Formation supérieure, Bac plus 5, école de commerce, ou Bac plus 4, avec 3 ans d'expérience en management. Une mobilité à minima régionale sera nécessaire en cas d'évolution. La rémunération, on est à 3 820,16 €.
C'est précis.
Les 16 euros sont importants. À l'embauche, avec une voiture de fonction à l'issue de la période d'essai et une formation personnalisée de plusieurs mois pour appréhender toutes les facettes du métier.
Rappelez-nous la région ou l'endroit.
Grande région Centre-Est.
Oui, c'est assez vaste.
Oui, absolument.
Et de toute façon, il y a la voiture de fonction.
Oui,
donc
on peut se déplacer.
Autre annonce.
Alors justement, on en parlait au début de l'émission. On cherche un assistant, une assistante ressources humaines pour la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Qui va travailler au sein du pôle développement des compétences. Donc la mission, c'est accompagner les dispositifs de formation, recenser, suivi des missions tutoriales. Donc il faut un titulaire d'un diplôme en ressources humaines avec une première expérience dans ce domaine, avec une rémunération à 1 627 € brut par mois sur 14 mois. Et le site, c'est recrute.cpm-. www.radio-paris.fr.
C'est noté. Une autre encore ?
Oui, un journaliste rédacteur a plutôt pour One Health Media, qui est un groupe média omnicanal, par exemple le moniteur des pharmacies. Donc il cherche une belle plume, qui est déjà une petite expérience ou officinale ou rédactionnelle, et qui démarrerait le 1er mars.
Ah oui, c'est tout chaud, le site, pour aller voir un petit peu
l'annonce. Alors le site, c'est un site où il y a énormément d'ailleurs de propositions de postes dans le domaine de la santé, c'est staffsanté.fr.
Vous connaissez
Bien sûr.
Mais voilà. Ah,
oui. Ils vous envoient du monde.
Oui, bien sûr.
Ils vous recrutent chez eux.
Comment ?
Ils vous recrutent.
Bien sûr, oui.
Ah,
bon,
ben, voilà. Je ne m'ai pas trompé.
Non.
Une petite dernière.
Oui, j'ai un stagiaire développement informatique chez Vinci à Lyon, puisqu'il y a encore des recherches de stage, Bac plus 2, qui sera rattaché au service ingénierie pour le suivi du taux du charge de service en fonction des projets en cours et des appels d'offres. Et ça, c'est sur Glassdoor.
Voilà. Parfait. Jacques Guillot, du côté de chez Ramsay Santé, de ses 150 établissements répartis, on l'a entendu, et pour ceux qui nous écoutent, sur la région PACA, sur la région toulousaine, sur Lyon et sur tout le pourtour en fait, de la France. Vous faites le tour de l'Hexagone. Qu'est-ce que vous recrutez en ce moment ?
Alors nous avons 750 postes à pourvoir à l'instant T. Alors essentiellement des soignants, c'est à peu près 70% des postes à pourvoir. Donc, c'est des postes d'aide-soignants, d'infirmières, d'infirmières de bloc opératoire. Et également, pour les non-soignants, des fonctions informatiques, des techniciens de support informatique pour nos établissements, répartis sur le territoire français.
Donc des développeurs éventuellement
Alors c'est plutôt des équipes, des techniciens qui vont venir installer le matériel dans les établissements, qui vont les maintenir.
Et peut-être des experts cybersécurité, non, en ce moment ?
Cybersécurité ? Nous en avons, nous sommes organisés. Oui.
D'accord, et vous en recrutez beaucoup ou pas ? Ou vous avez déjà
une
équipe ?
Les experts en cybersécurité, c'est une minorité.
D'accord.
Et donc nous avons une équipe, effectivement, qui est dédiée à ce risque.
Qui est effectivement permanent, on l'a vu ces derniers jours avec des attaques.
Oui.
Et il est vrai que la santé, c'est un secret médical, et que ce secret médical, eh bien, il se doit d'être effectivement dans des coffres-forts numériques pour ne pas laisser la place aux hackers. Merci Jacques Guyot d'être venu aujourd'hui dans les studios de Sud Radio pour faire avec nous cette émission des Voix de l'Emploi. Je rappelle que vous êtes le DRH de Ramsay Santé, et qu'il y a donc actuellement, vous l'avez dit...
750 postes à pourvoir.
Parfait. Merci Christine Bier, on se dit à mardi prochain, même heure, même antenne sur Sud Radio. Vous voulez ajouter quelque chose ?
Tout simplement, pour postuler, il suffit d'aller sur le site de Ramsay Santé et tous ces postes sont consultables.
Parfait. Merci Jacques Guyot. Il est temps de retrouver Jean-Marie Bordry et la suite des Voix de l'Emploi.
Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. Christine Biet, Yves de Risbourg, les Voix de l'Emploi.
Avec la participation de Lidl.
Je rappelle que les Voix de l'Emploi reviennent mardi prochain avec Christine Biet, Yves de Risbourg sur Sud Radio. Oui, si Dieu le veut, effectivement, pourquoi pas. Toutes vos questions d'ailleurs sur votre carrière, sur l'emploi, au 0826 300 300. Christine Biet, Yves de Risbourg vous répondront et vous donneront tous leurs bons conseils. La suite des vraies voix qui font bouger la France. Tout de suite, on retrouve Parlons Vrai avec les entrepreneurs. C'est avec Stéphane Soumier sur Sud Radio et sur Bismart en compagnie de son invité Pierre Noisa, qui est cofondateur de Paymium. À tout de suite.